Ce matin, en me levant, j'ai envoyé un message sur le WhatsApp de ma famille. C'était très simple. Et tout ce que j'avais écrit, c'est « The Lord is risen ». Parce que voilà, parmi anglais, voilà, ça se parle anglais. Ça veut dire « Le Seigneur est ressuscité ». OK? Et j'ai pas encore regardé pour voir s'il y a une réponse, mais je sais ce que mon père va mettre. Il va mettre « He is risen indeed ». Ça veut dire « Il est réellement ressuscité ». Et c'est une sorte de salutation que partout dans le monde aujourd'hui, dans beaucoup de langues, dans beaucoup de types de cultes, les plus traditionnels, les plus libres. Bon, si on est orthodoxe, c'est la semaine prochaine, mais bon, quand même, ça va se faire. Mais c'est une salutation qui va se changer parce que aujourd'hui, c'est quoi? On a déjà entendu, on l'a chanté. Aujourd'hui, c'est la fête de Pâques, ok? Et qui dit Pâques dit résurrection, ok? Résurrection. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la résurrection. Alors, s'il vous plaît, écoutez bien. Je sais qu'on croit qu'on sait tous l'histoire et que, voilà, oui, Jésus est mort, il est ressuscité et c'est génial et wouh, ok? Mais je veux appuyer sur quelque chose aujourd'hui. Et c'est quelque chose, Alex a déjà dit, c'est quelque chose qui est censé changer notre vie. Et donc, écoutez bien. Ne dites pas, ah oui, je connais l'histoire. OK? Dis, qu'est-ce que je peux prendre d'aujourd'hui? OK? Vous êtes prêts? OK. Alors, il faut savoir d'abord que la résurrection, ce n'est pas simplement un événement génial parmi tous les événements sympas dans la vie de Jésus. D'accord? Ce n'est pas juste encore un truc qui est super, qui est génial. L'apôtre Paul, il dit, en 1 Corinthiens 15, verset 14, il dit, « Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu, et votre foi est sans objet. » OK? Ça veut dire que, en gros, si Christ n'est pas ressuscité, le meilleur prédicateur dans le monde n'a rien à vous apporter. Et ça veut dire que vous n'avez rien à croire. Donc ça, il faut retenir au début. Mais pourquoi mettre autant d'importance sur la résurrection? Parce que si on croit Paul, Paul a beaucoup de choses à dire par rapport à la mort de Jésus. Et Paul, l'apôtre Paul, il dit que la mort de Jésus suffisait pour qu'on puisse connaître la réconciliation avec Dieu. La mort de Jésus suffisait. Romains 5, versets 8 et 9. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, puisque nous sommes maintenant déclarés justes grâce à son sacrifice, nous serons à plus forte raison encore sauvés par lui de la colère à venir. Alors, ce qu'on voit dans ces versets-là, ça c'est ce que nous appelons la miséricorde de Dieu. Okay, miséricorde, c'est le genre de mot qu'on utilise beaucoup dans les cercles chrétiens. Mais ça, c'est la miséricorde de Dieu. Ça veut dire qu'il ne nous donne pas ce que nous méritons. Anthony a déjà mentionné ce matin, je crois, ce que nous méritons. Il y a des choses qu'on mérite, il y a des choses qu'on ne mérite pas. Et ce qu'on méritait, c'est la colère de Dieu, le jugement de Dieu, la sanction pour nos péchés. Car Jésus s'est sacrifié pour nous. Il a pris la punition pour que nous puissions être considérés justes aux yeux de Dieu, le juge. OK? Donc ça, c'est la mort de Jésus. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, non? Ouais? Ouais, ça vous parle. Et pourtant, Paul, il dit, c'est pas la résurrection, quand même. Donc pour Paul, la réconciliation avec Dieu, c'est pas l'ensemble de l'histoire. C'est pas le tout. Et il semble suggérer qu'il y a encore quelque chose qui est plus important que ça, ou qui a encore du poids à rajouter. Et si on passe en Romains 10, donc c'est le verset juste après. Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son fils. Donc voilà, réconciliation, c'est fait. Par la mort de son fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Ça veut dire que le fait d'être réconcilié avec Dieu et le fait d'être sauvé ne sont pas la même chose. Okay? Il y a la réconciliation avec Dieu. Mais Dieu veut plus que ça pour nous. Il veut qu'on soit sauvés. Alors, sauver, ce mot, c'est tellement riche. J'aime bien ce mot. Le mot en grec, c'est le mot sozo. Donc déjà, c'est marrant de prononcer ça. Sozo, dites avec moi, sozo. Sozo, Dieu veut que tu sois sozo. OK, sozo. Et ce mot-là, ce mot signifie sauver. Cela signifie aussi restaurer, secouru, guéri, et ce que je préfère dans toute la liste, rendu entier. Rendu entier. Ce mot sozo. Donc oui, la réconciliation, c'est génial. Mais Dieu veut plus que les hommes brisés soient réconciliés. Il veut que les hommes, que les femmes brisées soient sozo, soient rendus entiers. D'accord. Et si la miséricorde est de ne pas recevoir ce que nous méritons, la grâce, c'est de recevoir ce que nous ne méritons pas. Et nous méritons la mort. Et Dieu, dans sa miséricorde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Jésus. Et maintenant, on est réconciliés. Ça, c'est la miséricorde de Dieu. Mais nous ne méritons pas d'être sauvés. Et c'est la grâce de Dieu qui fait que nous sommes sauvés. Okay? C'est pas la même chose. C'est encore un plus. Parce que Dieu, c'est un Dieu de plus. D'accord? Et concrètement, si Jésus est mort pour nos péchés, et on arrête là, ça veut dire que nous vivons notre vie de petite et grande galère, en sachant qu'à notre mort, Dieu ne nous punit pas. Et Paul, ce qu'il dit dans ce premier verset qu'on a vu, il dit, si ça c'est toute l'histoire, je n'ai rien à vous dire. Bon, il exagère un tout petit peu, il a quand même des choses à dire. Mais il dit, moi j'ai pas envie de vous prêcher que ça. Rien à croire ici. Okay? Son point, c'est que la mort de Jésus, c'est la première étape de quelque chose. Et si Jésus est réellement ressuscité, c'est là où tout commence à changer. OK? Donc ça, c'est la résurrection. Et pour ceux qui préparent le baptême, il y a des personnes ici qui préparent le baptême en ce moment. Ils sont peut-être pas là. OK? Une parmi les... Je sais qu'il y a un petit groupe. Vous allez connaître ce verset que je vais vous lire. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il est en train de donner une longue explication. C'est quelque chose que Paul sait très bien faire. Il fait des longues explications. Et il est en train de faire une longue explication sur ce que la mort de Jésus a accompli. Et je vais prendre juste simplement les versets 4 à 6, si on peut les projeter. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême, en relation avec sa mort, afin que, comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. Car si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance, et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça, c'est la version un peu plus longue. Il y a une version beaucoup plus courte. en Galates 2, 19-20. Et on va prendre juste la deuxième partie. Si on regarde juste la dernière phrase, en effet, je suis crucifié avec Christ. Et le début du prochain verset, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. OK? En effet, je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, c'est une bonne nouvelle. Encore une bonne nouvelle. Quelle matinée de bonnes nouvelles. Si Jésus est ressuscité, si Jésus est ton sauveur, toi aussi, tu es ressuscité. D'accord? Alors, si je vous dis, qui veut ressusciter? Levez la main si vous avez envie de ressusciter. Là, je vois beaucoup de mains. Alors, si je vous dis, qui veut être crucifié? Je vois qu'il y a un manque d'enthousiasme, disons. OK? Mais... tout d'un coup, on a moins envie. Tout d'un coup, la résurrection, on se dit, bon, je pèse les pour et les contre de la résurrection. Mais la Bible est très claire que la résurrection, ta résurrection, dépend, ça commence avec une crucifixion. Et c'est ta crucifixion. D'accord? Parce qu'il faut être crucifié avec Christ. La résurrection, notre résurrection, c'est conditionnel. C'est conditionnel. Si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, si, les petits mots sont des mots importants, ok? Et Paul, il n'est pas le seul à le dire non plus. Parce que Jésus disait lui-même à ses disciples, si on peut avoir Luc 9, 22-23, et il, c'est Jésus qui parle, il ajouta, il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et soit rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi. Il doit être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Puis, s'adressant à tous, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Okay? Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Et c'est ce que je trouve intéressant dans ce verset-là, c'est que quand Jésus a prononcé ces mots-là, il n'était pas encore passé par la croix. Alors pour nous, on lit ce verset, et on dit, ah oui, il faut se charger de sa croix. Et nous avons tout de suite une image en tête de ce que ça veut dire. Mais quand Jésus faisait donner cet enseignement-là, la crucifixion de Jésus n'avait pas encore eu lieu. Et donc, ça veut dire que les personnes qui l'écoutaient ne pouvaient pas encore faire exactement la même connexion que nous pouvons faire aujourd'hui. Ils savaient que la croix, c'est quelque chose de pas très agréable et que, voilà, c'est quelque chose qu'on voit de loin. Nous, on peut voir ça de près. Parce que Jésus est passé par là. Et Jésus, il est en train de faire le lien entre deux choses, et c'est là où je veux vraiment appuyer aujourd'hui. Il fait le lien entre le fait de le suivre et le fait de mourir, de renoncer à soi-même. Il dit, tu veux me suivre? Si tu veux me suivre, voici mon chemin, voici le chemin que moi je vais prendre. Donc ça veut dire que si tu vas me suivre, tu vas me suivre sur ce chemin-là. Première chose, je vais passer par les choses difficiles. J'aurai mes fans, j'aurai mes critiques. Mais ça c'est mon chemin, suis-moi. Ça veut dire que vous allez passer par les mêmes choses. Okay? Deuxième chose, il dit, je vais devoir plier ma volonté à la volonté de mon Père céleste. Et n'oublie pas ce que Jésus a prié dans le jardin de Gethsémané avant sa mort. Il suppliait Dieu, son Père, dans l'angoisse, avant son arrestation. Il parle avec son Père. Il est en train de dire, s'il te plaît, si c'est possible que ça se passe autrement. Si c'est possible. Parce que moi, je ne veux pas j'ai pas envie de souffrir comme ça. J'ai pas envie de mourir. Qui peut honnêtement dire qu'ils ont envie de passer par là? Jésus, c'était un homme. Et il savait combien. Il n'y a pas de mort plus barbare que cette mort-là. Et il avait pleine conscience de ça. Il ne voulait pas. Mais il dit, si c'est possible que cela se passe autrement, alors s'il te plaît, fais en sorte que ça se passe autrement. Mais, je me soumets. Je me soumets à ce que toi, tu veux. Et ce que je veux souligner là, c'est la mort de Jésus commençait là. Parce que ça commençait avec la mise à mort de sa volonté face à la volonté du Père. La première chose qui devait mourir pour Jésus, ce n'était pas son corps, c'était sa volonté. Et ce que Jésus est en train de dire là, il dit, ça c'est mon chemin, suis-moi. Tu veux me suivre? Il faut mourir. Vous allez passer par cette étape-là. Ta volonté face à la volonté du Père. Suis-moi. Et puis il dit, et là ça va durcir encore parce que je vais mourir. Je vais mourir. Mais à travers ma mort, Dieu veut accomplir ce qu'il veut accomplir. Alors ça, c'est mon chemin. Suis-moi. Que Dieu puisse accomplir ce que lui, il a envie d'accomplir. Et finalement, la bonne nouvelle, encore une fois, je vais ressusciter. Ça, c'est mon chemin. Suis-moi. Ça veut dire qu'on n'est pas censé juste suivre Jésus dans les choses qui sont dures. On est censé suivre Jésus jusqu'à la résurrection. Et on aime l'idée de la résurrection, mais il faut savoir qu'il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Tu veux être ressuscité, faut que tu sois crucifié. C'est comme ça que ça marche. Et Jésus et Paul étaient très clairs là-dessus. Alors, je veux juste vous raconter une histoire. Vous allez connaître. C'est assez connu. Mais encore une fois, pour appuyer cette idée, on est en Marc 10 et c'est verset 17. Alors, Jésus, il a prêché un peu partout. Il est en Judée et il voyage un peu et il part de ville, il va de ville en ville. Et Marc 10, 17, il est juste sur le point de partir d'un endroit. Comme il partait, un homme accourut, se jeta à genoux devant lui et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ?» Alors ça, on connaît cette histoire. Et en fait, Jésus lui dit, tu connais la loi, applique-la, fais-le. Tu sais ce qu'il faut faire, alors il faut le faire. Okay. Et puis le verset 20, « Maître, répondit l'homme, tout cela, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. » Alors, ici, on a un homme qui a une bonne éducation religieuse. Ses parents l'ont bien élevé. Ils ont instauré les bons principes parce qu'il dit « depuis ma jeunesse ». Ça fait partie de comment je fonctionne. C'est un homme qui est sérieux, il est assoiffé, il cherche des réponses. C'est marqué là qu'il court après Jésus et qu'il se jette à genoux. Il sait que Jésus a la réponse, finalement. Jésus, il voit tout ça, ce qui se passe dans le cœur de cet homme-là. Verset 21. Jésus posa sur cet homme un regard plein d'amour. Alors, je veux juste arrêter là un instant. On a un homme là qui dit, je veux la vie éternelle. Je veux cette vie de ressuscité. Comment est-ce que je peux l'avoir? Et j'ai fait de manière pratique tout ce que je sais faire pour l'avoir. Et Jésus sait que ça ne suffit pas. Il sait que ça ne suffit pas. Il sait que ce qu'il va dire va être difficile pour cet homme. Parce que Jésus, il veut que cet homme-là ait la vie éternelle. Et c'est pour ça qu'on voit ce regard plein d'amour. Jésus n'est pas en train juste de jeter encore un obstacle pour dire, allez, on va voir si tu sais sauter cet obstacle-là. Parfois, j'ai l'impression que quand on lit cette histoire, c'est comme si Jésus, est-ce que tu peux faire ça? Et est-ce que tu peux faire encore ça? Et non, Jésus, il est plein d'amour. Il veut la réussite de cet homme. Il veut que cet homme entre dans la vie éternelle. Donc, il a un regard plein d'amour envers lui. Il sait, ah, tu poses des bonnes questions. Et qu'est-ce qu'il dit? Il ne te manque qu'une chose. Alors, ma question, c'est, qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui manquait à cet homme? À votre avis, allez, on va ouvrir le... À votre avis, qu'est-ce qui lui manquait? La liberté? D'autres... Un peu plus fort? Un peu de renoncement à soi-même. OK? Ou ce sont les choses qu'on voit. Ce que je trouve très intéressant, c'est ce que Jésus dit dans ce paragraphe-là. Il dit, il ne te manque qu'une chose. Va, vends tout ce que tu possèdes, donne le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. En entendant ces paroles, l'homme s'assombrit et s'en alla tout triste, car il était très riche. Alors, la chose qui manquait à cet homme, selon Jésus, il doit vendre tout ce qu'il possède. Et la première fois, je me souviens, la première fois que j'ai lu cette histoire, je me disais, est-ce qu'il faut que tous les chrétiens vendent tout ce qu'ils ont? Non, mais c'est une question sérieuse. Parce que est-ce que c'est ça que Jésus est en train de dire, que je ne peux pas avoir des choses parce que c'est Dieu qui compte? Et en fait, je me suis rendu compte que je lisais le passage un peu à travers. C'est pas l'appauvrissement volontaire de cet homme qui manquait. Je pense pas en tout cas. Jésus lui dit qu'une chose lui manque. Il dit, tu ne me suis pas. Tu ne me suis pas. C'est ça qui te manque. Tu fais de bonnes choses, tu peux connaître les bons principes, tu es de bonne volonté, tu respectes la loi, mais tu ne me suis pas. C'est ça qui te manque, finalement. Et tu n'auras pas la vie de ressuscité si tu ne me suis pas. Et c'est aussi simple que ça. Tu cherches la vie éternelle et tu ne l'auras pas tant que tu ne me suis pas. Et pour cet homme en particulier, l'obstacle était justement sa richesse. Il n'était pas libre du poids de ses biens matériels. Il doit mourir à son identité d'homme riche. Mais vous savez, nous avons tous notre identité quelque part. Ce n'est pas forcément d'homme riche. C'est sûr que moi, je suis pas femme riche. J'ai pas besoin de mourir à une identité de femme riche parce que, voilà, c'est pas mon cas. Mais j'ai d'autres choses qui me tiennent à cœur ou, voilà. Ça, c'est mon identité. Femme anglaise. Mon identité. Et puis, qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Je vous ai déjà partagé ça il y a quelques semaines. Tu vas changer de pays, tu vas changer de nationalité. Où est ma nationalisme maintenant? OK, j'ai changé. C'est une partie de mon identité que Dieu m'a demandé de soumettre. Alors ça va, c'est bien d'être française quand même. Mais tu sais, il y a des choses, nous avons tous notre identité. Pour cet homme-là, c'était cette identité d'homme riche. C'est qui suis-je sans mes richesses? Qui suis-je sans mes richesses? Mais Jésus dit, si tu n'es pas prêt à soumettre ton identité... Que ça soit quelque chose de social ou de psychologique ou une étiquette que tu aimes mettre sur toi-même. Si tu n'es pas prêt à soumettre ça, tu ne peux pas suivre Jésus. Et le problème, et c'est triste dans cette histoire, c'est que cet homme, il ne veut pas céder son identité à l'appel de Dieu. Dieu l'appelle. Et en fait, il dit, non, je veux tenir ça. Et je me demande pourquoi, parce qu'il avait donné l'impression, en tout cas, d'avoir vraiment envie de la vie éternelle. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que le fait de devenir un peu moins riche, qu'est-ce qui a changé ça? Et en fait, je me suis rendu compte que il ne voit pas plus loin que la mort. Il ne voit pas plus loin que la renonciation. Tout ce qu'il voit, c'est ce que ça va lui coûter. Mais il ne voit pas de plus loin, au-delà de la renonciation. Il ne voit pas ce que Dieu veut, ce que Dieu veut accomplir à travers sa vie. Il ne voit pas ce que ça a fait d'être ressuscité de l'autre côté. Il ne voit pas le gain. Il ne voit pas, parce qu'il est bloqué sur le fait d'avoir à renoncer quelque chose. Et le truc, c'est que ce que Dieu veut accomplir, c'est pas forcément juste dans sa vie, mais ça peut toucher la vie des autres. Combien de personnes ici connaissent le nom Reinhard Bonnke? Ça vous dit quelque chose? Il était l'orateur à une conférence dans nos églises en Angleterre. Et quelque chose qu'il a dit une fois m'a vraiment frappé. Il a dit, Dieu m'a dit que je n'étais pas son premier choix pour ce que je fais. Que j'étais la troisième personne qu'il avait appelée à faire ce que je fais, mais que deux personnes lui ont déjà dit non. Et je me dis, ouf, déjà, qu'est-ce que ça fait de savoir que tu es le troisième choix de Dieu? Mais en même temps, je me dis, mais c'est tellement triste. Parce que tu imagines ce que ces deux premières personnes ont raté dans leur vie, avec les centaines de milliers de personnes qui ont rencontré Dieu. Et je me demande si le problème n'était pas que ces deux premières personnes, ils n'ont pas vu la résurrection, ils n'ont pas vu ce que Dieu voulait accomplir à travers leur renonciation de quelque chose. Et on sait très bien que ça a coûté à Reinhard Bonnke, ça a coûté beaucoup de suivre Dieu. Mais il a dit oui. Il a dit oui. Et donc, je me mets un peu à la place de cette personne-là et je dis, je ne pense pas qu'il a vu la vie de ressuscité de l'autre côté de sa renonciation, de ses richesses. Il pensait que ça terminait dans l'appauvrissement, finalement. Et c'est triste. Et je pense que pour nous, c'est pareil. Parfois, nous sommes très myopes. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose et on ne veut pas, parce que c'est dur, parce que c'est compliqué, on a du mal à voir derrière cette renonciation. Pour dire, en fait, qu'est-ce que Dieu veut accomplir là? Qu'est-ce qui va être ramené à la vie à travers cette renonciation? Et on est tellement focalisé sur la renonciation que du coup, nous perdons de vue la résurrection. Et c'est même vrai pour Jésus. Vous savez que Jésus, lui aussi, il avait besoin de motivation pour aller à la croix. Ce n'était pas juste, ouais, d'accord, ok, je soumets, je vais à la croix, tranquille. Il n'était pas du tout tranquille. La Bible nous dit qu'il suait le sang. La pression, c'était tellement fort sur lui. Mais Hébreux 12 nous dit qu'il avait en vue la joie. Il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et c'est pour ça qu'il a enduré la mort à la croix. Donc même Jésus avait besoin de dire, non, attends, je dois passer par là, mais en fait, je regarde plus loin. Ce que je vais regarder, c'est la joie qui est de l'autre côté. Je ne vais pas regarder la croix. C'est un passage obligatoire, mais ce n'est pas là où je vais fixer mes yeux. J'ai en vue la joie de l'autre côté. Et c'est ça qui va m'aider à tenir dans les moments qui sont plus difficiles, plus compliqués, douloureux. Et donc, pour Jésus, la Bible nous dit que lui, il a vu les choses comme nous, on les voit. Il a passé par les mêmes tentations, les mêmes troubles. Et lui, il aussi, il avait besoin de motivation. Et donc, Dieu lui a dit, voilà, le Père lui a dit, voilà la joie que tu auras une fois que ce passage de vie douloureux est fini. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Alors, Romains 10, verset 9, nous dit, si de ta bouche, tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Alors Jésus, il n'est pas ton patron, d'accord? Il n'a pas le droit de regard sur quelques heures de ta journée. Et puis après, voilà, il n'a pas le droit. Jésus est ton Seigneur. Ça veut dire qu'il a le droit de regard sur tout et à tout moment. Et il a le droit de te dire comment tu vas passer ton temps. Il a le droit de dire comment tu veux utiliser les ressources qui sont à ta disposition. C'est ça, quand Jésus est Seigneur, c'est ça que ça veut dire. C'est 24 sur 24 et c'est 100%. Et si ce n'est pas le cas, il faut te poser la question, est-ce que Jésus est mon Seigneur? Ce n'est pas juste, oui, je crois que tu existes. C'est Jésus est Seigneur. Et ça veut dire que tes préférences personnelles ne sont plus la priorité. Alors Dieu, il est très sympa avec nous. Et la Bible nous dit qu'il nous donne les désirs de nos cœurs. Donc ce n'est pas que tout est triste et misérable. Mais il faut savoir que nos préférences ne sont pas prioritaires. Parce que c'est les préférences de Dieu qui sont prioritaires. Alors, donc, Jésus est ton Seigneur et tu crois que Dieu l'a ressuscité. Okay? Dans ce cas-là, félicitations, tu l'as suivi à travers sa mort. L'ancien toi a été crucifié et tu es aujourd'hui ressuscité. Ok? Donc, quelque chose s'est passé. Mais je veux vous laisser avec une pensée. Et c'est quelque chose, c'est un peu triste, quelque part, parce que mon constat, après de longues années d'accompagnement de personnes qui ont envie de suivre Jésus, c'est qu'il n'y a rien de plus triste qu'un ressuscité qui n'a pas réussi à quitter le cimetière. Et nous connaissons tellement bien l'histoire de la mort et de la résurrection de Jésus que nous minimisons, je pense, la puissance de Dieu pour révolutionner nos vies. Parce que ça devient juste, ouais, passage, oui, je crois ça, j'ai dit ça, et puis voilà, je continue mon train-train. Et ce n'est pas ce que la Bible dit de la résurrection de Jésus. Dieu n'a pas besoin de voir une petite amélioration dans nos vies. Okay? La résurrection, c'est la révolution. C'est la révolution. C'est un changement de système de gouvernement dans votre vie. Parce que nous ne sommes pas sauvés, nous ne sommes pas ressuscités avec Jésus pour rester assis sur le tombeau de l'ancien moi, avec tout le poids de l'ancien moi toujours sur les épaules, parce qu'il n'y a rien de puissant et glorieux dans ça. Et nous savons que la résurrection de Jésus, c'était puissante et c'était glorieuse. Et c'est vrai que la liste de tous ces péchés qui peuvent caractériser l'ancien nous, c'est très long. Et souvent, on voit des listes parfois dans la Bible et c'est assez déprimant. Il y a le refus d'écouter Dieu, il y a la peur, il y a le désespoir, il y a le manque de confiance en la bonté de Dieu, il y a les rancunes, il y a l'impureté sexuelle, il y a l'élévation dans notre vie des choses qui prennent la place de Dieu. Il y a toutes les pensées, les attitudes pourries qu'on peut avoir. Il y a la paresse, il y a l'égoïsme, il y a l'agressivité, il y a le manque de maîtrise de soi. Et ça, c'est juste une petite partie de toute la liste de toutes ces choses-là qui peut nous caractériser, l'ancien nous. Mais tout ça, en se laissant crucifier avec Christ, on est censé laisser ça dans le tombeau. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On quitte le cimetière. On quitte le cimetière. Quand notre résurrection doit ressembler à la résurrection de Jésus. Que disaient les anges à ceux qui sont venus chercher au tombeau le corps de Jésus? Il y avait des personnes après. Jésus, il est mort à la croix. Et puis, il y a Joseph d'Arimathée qui prend son corps, qui le met dans le tombeau. Et puis il fallait se reposer, c'était le sabbat. Et puis, il y a les personnes qui sont venues chercher le corps pour un peu faire beau pour un corps, pour préparer ça pour une éternité dans le tombeau. Et ils arrivent là, et ils font ça par amour pour Jésus. Mais ils arrivent dans le cimetière, et c'est les anges qui les rencontrent. Et qu'est-ce que les anges disent? C'est Luc 24, versets 5 et 6. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici, mais il est ressuscité. Okay? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est plus ici. Jésus, il a pris tes péchés sur tes épaules. Il est mort. Il a laissé tout ça dans le tombeau. Il est ressuscité et il a quitté le cimetière. Il n'est pas resté là pour dire « Coucou tout le monde, je suis ressuscité et je ne bouge plus. » Ok? Et ça, c'est, il faut absolument qu'on saisisse ça. Quand la tentation, quand quelque chose qui caractérisait l'ancien moi m'appelle, il faut savoir filtrer les appels. Il faut savoir filtrer les appels. Imaginez, ok, vous avez « bring, 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 bonjour ». Bonjour, c'est le désespoir. J'ai de très mauvaises nouvelles pour vous. Ok? Alors j'ai un choix. Est-ce que j'écoute? Est-ce que j'écoute pas? Ou bonjour, c'est l'égoïsme. Je t'appelle car tu es la plus importante. Tu es le centre de mon monde. Ok? Alors moi je peux dire oui, oui c'est vrai. Je suis le centre de mon monde. Okay? Mais non, on est appelé à filtrer ce genre d'appel. Et il faut savoir reconnaître les numéros. Okay? Et quand tu vois le numéro de le désespoir ou l'égoïsme ou tout ce que j'ai déjà cité là et plein d'autres choses, il faut envoyer ça sur le répondeur. Okay? Et qu'est-ce qu'on met sur le répondeur? Vous avez essayé de joindre Sandy Binet. Pourquoi cherches-tu parmi les morts celle qui est vivante? Elle n'est plus ici. Elle n'est plus ici. Elle est puissamment et glorieusement ressuscitée. Ok? Et ça, c'est notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. OK? Il faut qu'on appelle à filtrer les appels et il faut qu'on ait la même réponse. On n'est plus dans le cimetière. On n'est plus attaché au tombeau. Je ne suis plus là. Je suis ressuscité. Je ne réponds pas à ce genre d'appel dans ma vie. Ça, c'est, ça, en grande partie, c'est la vie d'une ressuscitée. Et moi, je suis une ressuscitée. Et c'est ce que je souhaite pour vous. Que vous soyez les ressuscités. D'accord? Donc, filtrage d'appel, très important. Alors, pour finir, je vais vous rappeler les paroles de Jésus. On a déjà vu ce verset, on va juste reprendre, c'est Luc 9, verset 23. Et puis, s'adressant à tous, il dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. » Et qu'ils me suivent. Alors vous savez, il y a toujours cette première fois où on dit en toute sincérité, Jésus, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Prends qui je suis à 100%. Je renonce à moi-même, je meurs à tout ce qui pourrait venir entre toi et moi. Et il y a cette première fois où on croit vraiment que Dieu est ressuscité. Et on est sauvé. Et il y a un changement radical dans le monde spirituel. Et c'est la fête. On lit qu'il y a la fête dans le ciel. Quand quelqu'un, pourquoi? Parce que quelqu'un est crucifié avec Christ et puis ressuscite. Et le ciel fête toujours la vie. Et c'est ça que le ciel est en train de fêter. C'est pas que Dieu allait vivre encore quelques années et puis dans je sais pas combien de temps tu vas rejoindre Dieu. Dans le ciel. Non, parce que la vie, ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Et donc, peut-être pour toi, aujourd'hui, c'est cette première fois, et je ne vous cache pas, c'est une invitation à mourir. C'est une invitation à mourir. Si tu veux suivre Jésus, il n'y a pas de raccourci. Mais c'est une mort suivie d'une résurrection. Et ça, c'est bien. Mais ce que je veux souligner dans ce passage-là, c'est qu'il se charge chaque jour de sa croix. Okay? Ce n'est pas une décision d'une fois. Oh oui, il y a, bah pour moi, ça date de 47 ans. Imagine, ça fait 47 ans que je suis Dieu. Et cette première fois, c'était il y a très, très longtemps. Mais chaque jour, je dois refaire le choix. Chaque jour, je dois dire, Jésus, tu es Seigneur. Et peut-être pour toi, cette première fois date d'il y a longtemps, comme pour moi. Et peut-être depuis, tu as connu les hauts et les bas. Tu t'es éloigné, tu t'es rapproché. Aujourd'hui, tu ne sais pas exactement où tu te trouves. Mais tu sais que tu dois mourir à nouveau. Tu sais que tu dois mourir à nouveau. Et je veux t'inviter aujourd'hui encore à te charger de ta croix. À mourir à nouveau à ces choses qui t'ont laissé cloué au tombeau. Parce que le temps qu'on ne meurt pas, le temps qu'on ne se lève pas, le temps qu'on ne quitte pas le cimetière, on est toujours cloué au tombeau. Et il faut qu'on quitte le cimetière. Parce que je veux t'inviter à voir plus loin, je veux t'inviter à regarder la résurrection, plutôt que ce que tu dois renoncer. Et je veux t'inviter à imaginer ce que Dieu veut accomplir. Quelque chose de beau pour toi et sûrement pour les autres autour de toi. Parce que tu n'es jamais la seule personne touchée par ta résurrection. Ou peut-être pour toi, aujourd'hui, c'est simplement une journée comme hier, comme avant-hier et comme demain, où tu choisis, comme d'habitude, comme tu le fais habituellement, de te charger de ta croix et de mourir à toi-même et de suivre Jésus. Parce que tu as goûté à la résurrection et t'en veux plus. Tu sais qu'il y a plus. Et c'est un parcours que Dieu met devant nous. Parce que la résurrection, c'est quelque chose qui se vit quotidiennement. Ce n'est pas un événement à un moment donné, même s'il y a un point de départ, mais la vie dans laquelle Dieu nous invite est sans fin. C'est sans fin. Et quelque chose qu'on va voir un peu dans l'étude croissance, lundi prochain, bah pas ce lundi, mais lundi prochain, c'est qu'est-ce que ça veut dire vraiment la vie éternelle. Et je veux simplement vous dire que Dieu a plus. Dieu a plus. Et j'aimerais vous encourager. Paul, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît? Si tu t'identifies dans l'un de ces trois catégories, donc soit c'est la première fois où tu dis, Seigneur Jésus, tu es mon Seigneur et je crois que tu es ressuscité. Je renonce à moi-même. Si ça fait un petit moment, il faut remettre les choses en place, il faut mourir à nouveau et retrouver ta vie de ressuscité. Ou si, comme je disais, c'est ton habitude de tous les jours, j'aimerais vous inviter à vous lever. Et on va prier, on va inviter le Saint-Esprit. Il y a un verset que j'aime beaucoup, que j'ai oublié de noter là, qui dit que le Saint-Esprit est source de vie et il vient rendre la vie à nos corps. C'est le Saint-Esprit qui vient rendre la vie à nos corps. Et on va juste prendre un instant, on va réfléchir un peu ce qu'on a entendu et on va inviter le Saint-Esprit à venir et à nous rendre la vie. Le Saint-Esprit est source de vie. Donc Jésus, tu es mon Seigneur. Jésus, je fixe mes yeux sur la résurrection, sur la vie que tu as préparée, sur ce que tu veux accomplir. Et Seigneur, que ce soit pour la première fois ou que ce soit pour la millième fois, je renonce à moi-même. Je renonce à moi-même, Seigneur. Et je te suis. Et je te suis à travers ta mort. Je te suis à travers ta soumission à la volonté de Dieu. Mais Seigneur, je te suis vers cette résurrection glorieuse et puissante que tu as préparée. Seigneur, je fixe mes yeux sur la joie qui m'est réservée. Et dans les moments où c'est dur et j'ai vraiment l'impression que je suis en train de mourir à quelque chose, là où j'ai du mal à lâcher quelque chose, là où j'ai du mal à me détacher de quelque chose qui ne me fait pas du bien, Seigneur, je fixe mes yeux sur la joie qui m'est réservée. Je fixe mes yeux sur la vie éternelle que tu as mis devant moi. Seigneur, nous voulons goûter, nous voulons voir combien tu es bon. Alors, Saint-Esprit, viens maintenant nous rendre la vie. Rends-nous la vie, Seigneur. Remplis-nous encore, Seigneur, avec cette vie, cette puissance de vie, cette même vie qui a ressuscité Jésus d'entre les morts et qui habite en nous aujourd'hui. Saint-Esprit, viens. Saint-Esprit, viens. Oh, Jésus.